Cinéscopie, l'émission de la musique de film et du cinéma. C'est tout de suite sur RTF, une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30 pour vous parler, bien sûr, de l'actualité du cinéma, l'actualité de la musique de film et du support physique également, que nous défendons vaillamment de semaine en semaine. Voilà. Et puis, à l'approche des fêtes de Noël, évidemment, il y a des sorties fort intéressantes sur DVD, Blu-ray, en steelbook. On vous en parle dans quelques minutes. Et puis, pour commencer cette émission, parlons un petit peu de l'actualité de la musique de film avec la réédition chez Intrada d'une musique de film signée Jerry Goldsmith, pour Alan Quatermain et les mines du roi Salomon. Alors attention, il ne s'agit pas de la version avec Stewart Granger, qui est magnifique, mais de la version beaucoup plus fantaisiste, réalisée avec Richard Chamberlain et Sharon Stone. Alors, bon, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est vrai, mais c'est une agréable série B. Et Jerry Goldsmith avait écrit une musique, ma foi, fort intéressante et très dynamique pour ce film. Et donc, elle sort remasterisée sur un double album, parce que là, on a droit à la totale. Alors, quand on est fan de Jerry Goldsmith, c'est quand même un des géants de la musique de film, eh bien, on ne peut pas passer à côté de cette édition. Alan Quatermain et les mines du roi Salomon. Et d'ailleurs, Jerry Goldsmith qui sera une nouvelle fois à l'honneur chez Intrada, puisque la musique d'un de ses films vient d'être réenregistrée par le Royal Scottish National Orchestra. Et ça arrive très bientôt. Ça s'appelle The Chairman. On vous en parlera en temps et en heure. Ça s'annonce en tout cas très très bien. Oui, on voulait vous dire aussi un tout petit mot de Che Kikario, l'acteur Che Kikario qui a joué dans quelques 80 films et qui nous a quitté récemment à l'âge de 72 ans. C'était le 31 octobre. On n'en avait pas parlé à l'époque. On voulait quand même lui rendre un petit hommage ce soir en rappelant que voilà, que cet acteur qui était polyglotte d'ailleurs, puisqu'en fait c'était quelqu'un qui était né en Turquie. Je crois que son père était turc et sa mère grecque, voilà. Donc, du coup, c'est un acteur qui maîtrisait évidemment l'arabe, mais aussi le français, l'anglais et l'espagnol. Et il avait débuté sa carrière dans le cinéma d'auteur, notamment devant la caméra de Chantal Akerman dans le film Toute une nuit, et devant celle d'Éric Rohmer en 1984 dans Les nuits de la pleine lune. Et en 1983, on a un peu oublié, mais il avait été nommé pour le César du meilleur espoir masculin pour son rôle de truand dans le film La Balance du réalisateur Bob Swain. Alors, il a une filmographie assez éclectique, on s'en souvient surtout pour deux films. Tout d'abord, L'Ours, puisque dans L'Ours, il tient le rôle principal. Dans ce film, il campait un chasseur de plantigrades pris de remords, finalement. Et c'est ce film, L'Ours, d'ailleurs, a eu un énorme succès en salle, puisque je crois qu'il a drainé pas loin de 9 millions de spectateurs donc dans les salles de cinéma. Et puis, le deuxième film, vraiment, qui a popularisé Che Kikario, c'est Nikita, de Luc Besson. Dans ce film, il joue le rôle ambigu de l'agent recruteur de Nikita, qui, vous le savez, est une redoutable tueuse à gages, incarnée par Anne Pario. Voilà. Et c'est Luc Besson, d'ailleurs, Che Kikario va le retrouver plus tard, je crois en 99, pour le film Jeanne d'Arc. Donc, une carrière assez éclectique, il va même tourner, il va avoir une carrière internationale, Che Kikario. On s'en souvient notamment dans le film Christophe Colomb, aux côtés de Gérard Depardieu. Et il joue, on s'en souvient comme bien, des rôles de méchants, notamment dans le James Bond GoldenEye en 1995. Et il joue le rôle également d'un criminel dans Bad Boys, ce célèbre film avec Will Smith. C'est vrai que GoldenEye et Bad Boys ont vraiment fait sa renommée à l'international. Du coup, bon, il va quand même tourné pas mal pour les anglo-saxons. On le verra aussi dans le film Le Patriote aux côtés de Mel Gibson. Et puis, il va tourner aussi pour la télévision, et notamment, il va tourner dans un certain nombre de téléfilms britanniques pour la BBC, notamment dans une série qui s'appelle The Missing, je crois, à partir de 2014. Et il joue le rôle de Baptiste, un enquêteur qui recherche des personnes disparues. Et c'est vrai que ça avait été diffusé, d'ailleurs, je me souviens, il me semble-t-il, sur Arte, et c'était plutôt pas mal. Et voilà, on regrette vraiment la disparition de cet acteur qui était quand même capable de jouer à la fois des brutes, mais aussi des personnages beaucoup plus tendres et beaucoup plus complexes. Voilà, il a également tourné toujours à la télévision dans quelques épisodes de Kaamelott d'Alexandre Astier, voilà. Et il a eu une carrière aussi, on le sait peut-être moins. Il a une longue carrière sur les planches. Il s'était produit d'ailleurs au Festival d'Avignon dès le début des années 80. Voilà, donc c'est un acteur, un comédien assez complet qui nous a quitté, Checky Cario. Et en plus, moi je l'aimais bien parce qu'en fait, il avait des allures effectivement un petit peu brutes de décoffrage, mais en même temps, il avait une voix, assez douce. Il y avait un contraste chez lui, et c'est ce contraste, je crois, qu'on a aimé chez Checky Cario. En tout cas, ce soir, peut-être qu'on lui rendra hommage en musique. Laurent, je me tourne vers toi. Peut-être que on écoutera la musique d'un de ses films. Finalement, voilà, une carrière en tout cas bien remplie, mais voilà, il est quand même décédé jeune, hein, 72 ans, c'est pas vieux, je crois qu'il va, il restera dans la mémoire en tout cas des cinéphiles, il a joué dans comme pas mal de films, même des petits rôles, hein, je me souviens, dans Le Marginal, il joue le rôle d'une petite frappe, hein, aux côtés de Belmondo, hein, je me souviens de ça aussi. Voilà, en tout cas, voilà, une belle personne qui nous a quitté malheureusement, Checky Cario. Donc Laurent, bonsoir d'abord.
Bonsoir à tous. Oui, c'est Checky Cario, c'est une gueule, hein, c'est aussi, même s'il a joué dans beaucoup de second rôle, il était malgré tout indispensable, comme beaucoup d'acteurs qui sont souvent présents dans les seconds couteaux et qui apportent véritablement une matière brute au film. Et c'est le cas de Checky Cario. Et donc on va lui rendre hommage à travers, on va ouvrir cette émission à travers cet hommage et dans un film, pour un film en tout cas à l'international, réalisé en 2000 par Roland Emmerich, c'est Le Patriote, avec bien sûr en tête d'affiche Mel Gibson, entre autres.
C'était pas mal ce film. C'est sur la guerre d'indépendance américaine en fait le sujet.
C'est cela. Et puis bon, l'histoire du personnage qui est joué par Mel Gibson, Benjamin, qui en fait va lutter un petit peu contre cette propension à dire que en fait tout peut se résoudre par une guerre. Voilà. Donc plutôt voilà, lutter contre ces actes de violence et pour promotionner la paix en fait. Et à travers ce film, en tout cas une très très belle partition signée par le maître John Williams, et on va vous proposer le final qui en tout cas a une durée de 8 minutes, mais voilà, quelle partition et quelle beauté en tout cas, que ce soit au niveau de la mélodie, de l'orchestration, voilà, c'est du grand John Williams, en tout cas, qui nous avait proposé pour ce projet de Roland Emmerich, The Patriot. Je vous le conseille, si vous ne connaissez pas ce film, eh bien découvrez-le. Je crois, me semble-t-il, qu'il est déjà sorti avec une édition 4 câbles, haute définition, oui. Voilà. Oui. Et même à petit prix, si vous souhaitez ne pas vous ruiner. Allez, tout de suite, John Williams, The Patriot, et on se retrouve juste après pour les nouveautés à la vidéo. Rubrique vidéo.
La rubrique vidéo, oui, l'actualité du support physique, Blu-ray, DVD, c'est tous les lundis soirs dans Cinéscopie sur RTF. Et en direct, puisque je vous rappelle qu'il est 9h06 à la pendule de RTF. Alors, dans la collection Make My Day chez Studio Canal, il y a deux sorties dignes d'intérêt, ma foi, que je vous signale ce soir. Tout d'abord, alors peut-être qu'on en a parlé la semaine dernière, film de Peter Fleischman sur un scénario de Jean-Claude Carrière et Martin Walser. Un film qui... une dimension un peu kafkaïenne. Un homme apparemment inoffensif, Georgis, est arrêté pour un motif anodin. Il est escorté par deux policiers dans un endroit surnommé la Centrale. Pendant son interrogatoire, d'étranges liens d'amitié se nouent entre le captif et le gardien, mais les services secrets veillent. Voilà, donc c'est un film vraiment très intéressant avec un casting incroyable, puisqu'on retrouve dans les rôles principaux Michel Piccoli, Ugo Tognazzi, Mario Adorf et Adriana Asti. Tout cela sur une musique de Ennio Morricone et une photographie de Luciano Tovoli. Voilà, donc un film assez passionnant à découvrir ou à redécouvrir. La faille, alors en plus avec ce scénario de Jean-Claude Carrière, donc on sait qu'il y a du fond, voilà, que ça nous raconte quand même quelque chose. Toujours dans cette collection Make My Day chez Studio Canal, eh bien un polar, Eye the Jury, c'est moi le jury, c'est ça, si on devait traduire en français. C'est un film qui nous permet de redécouvrir Mike Hammer, Mike Hammer, le détective. Jack Williams, le meilleur ami du détective privé Mike Hammer, a été assassiné. Aidé de son inséparable assistante Velda et sous la confiante protection de son copain Pat Chambers, Mike commence une enquête difficile qui le mène dans une étrange clinique pour déficients sexuels. Clinique dirigée par la séduisante Charlotte Bennett. Eh bien, c'est un film réalisé par Harry Essex. Mais pour un film où il est question d'une clinique pour déficients sexuels, c'est assez marrant, mais enfin, c'est comme ça. L'histoire originale, eh bien évidemment, on la doit à Mickey Spillane, d'après son roman J'aurai ta peau. C'est le titre, enfin, c'est le titre français de ce roman Eye the Jury. Et c'est un film produit par Victor Saville, avec dans les rôles principaux Biff Elliott, Preston Foster, Peggy Castle, Margaret Sheridan, Alan Reed et Mary Anderson, musique signée Franz Waxman et photo, le chef opérateur du film, c'est quand même John Alton, ce qui nous vaut une photographie noir et blanc de toute beauté. Donc là aussi, si vous aimez le film noir, il faut vous précipiter sur cette édition de J'aurai ta peau chez Make My Day. Alors on va rester dans le polar, dans le thriller, avec un film réalisé en 1996 par les frères Wachowski. Enfin à l'époque c'était les frères Andy et Larry Wachowski qui ont fait leur transition maintenant, voilà, sont devenus des femmes. Voilà. Alors ce film s'intitule Bound et il est interprété par Joe Pantoliano, Jennifer Tilly et Gina Gershon. L'histoire de Violette, qui est la maîtresse de César. César, c'est un truand spécialisé dans le blanchiment d'argent pour la mafia. Violemment attirée par Corky en liberté provisoire après 5 ans de prison, elle décide de la séduire et d'utiliser son talent de braqueuse pour réussir le coup le plus risqué, détourner 2 millions de dollars. Alors le film aborde le sujet de l'homosexualité féminine, mais c'est aussi évidemment, vous l'avez l'avez vu, vous l'avez deviné, un polar, véritablement. Le film nous est proposé dans un combo 4K Blu-ray. Alors vous avez donc le film en ultra haute définition et le Blu-ray standard. Les bonus, une présentation du film par la journaliste Caroline Hivier. Et puis des interviews, notamment de Gina Gershon, Jennifer Tilly, Joe Pantoliano et Christopher Meloni. Et puis il y a également quelques petits documentaires sur la réalisation du film. Donc je vous conseille vraiment de redécouvrir ce film avec Gina Gershon, Bound, des frères Wachowski. Et une réédition vraiment qui vaut le coup, là aussi, c'est Les Guerriers de la Nuit, film réalisé en 1979 par Walter Hill, un film qui nous est proposé dans une version Director's Cut et en haute définition. Donc c'est vraiment incontournable. Ce film est édité par Paramount et dans les rôles principaux, il y avait Michael Beck et James Remar. Alors, à sa sortie en 1979, ce film de Walter Hill a provoqué bien des remous dans la société. Puisqu'en fait, que raconte ce film ? C'est l'histoire de gangs qui s'affrontent dans New York. Le film commence lorsque Cyrus, le chef charismatique du gang le plus puissant de l'État de New York, a réuni l'ensemble des gangs de la ville pour une assemblée nocturne à Central Park. Son discours est celui d'un rassembleur qui invite les représentants conviés à déclarer une trêve afin de cesser leur rivalité territoriale et à s'unir pour s'emparer de la cité et la dominer, insistant sur le fait que leur nombre dépasse de très loin celui des policiers. Mais Cyrus est abattu d'un coup de revolver par le chef d'une bande rivale. Celui-ci accuse les Warriors d'avoir perpétré le crime. Commence alors pour les 8 membres des Warriors une chasse à l'homme dont ils sont la proie, désignée par les Riffs, le gang orphelin de Cyrus. Les Warriors, poursuivis autant par la police que par les gangs, vont devoir traverser New York pour retourner sains et saufs sur leur territoire de Coney Island, en échappant évidemment aux multiples dangers qui les attendent à chaque coin de rue. Voilà, un film tout à fait intéressant qui, est un petit peu, je dirais, visionnaire à l'époque, hein, puisque aujourd'hui, déjà New York était gangréné par les gangs, mais c'est un phénomène finalement qui s'est élargi, et on le voit aujourd'hui nous-mêmes en France. Voilà, il y a le phénomène des gangs, c'est quand même largement étendu. C'est un film qui est adapté d'un roman de Sol Yurick, publié en 1965. Roman qui d'ailleurs était lui-même inspiré de l'anabase du philosophe grec Xénophon. Le film transposant évidemment de nos jours à New York une tragédie antique. Cette tragédie, c'est celle de la retraite des 10 000 après la bataille de Cunaxa, au cours de laquelle le prince Cyrus, Cyrus le Jeune, a péri. En effet, en 401 avant Jésus-Christ, une armée de mercenaires grecs se retrouva isolée au cœur de l'Empire perse, derrière les lignes ennemies. Ils s'étaient cernés et ont dû se battre pour rentrer chez eux. Les Warriors sont donc un peu le souvenir de ces Grecs, et ils sont d'ailleurs décrits dans le film comme des Spartiates modernes. Alors la sortie, comme je vous le disais, de ce film aux États-Unis en 1979 a été mouvementée. Et oui, comme il s'agissait d'un film de gang, eh bien des membres de gang s'étaient présentés à des projections et des bagarres avaient éclaté entre bandes rivales dans les cinémas. Et le film fut associé donc à des actes de vandalisme. Et même à Boston, encore plus grave, un garçon de 16 ans fut mortellement blessé au couteau par une bande d'adolescents qui venait de voir le long métrage. Bon, il y a eu aussi des morts par arme à feu en Californie. Du coup, les exploitants de salles renforcèrent leur sécurité au moment de la sortie de ce film. Les Warriors, en fait, le titre français, c'est Les Guerriers de la Nuit. Donc, le film ressort aujourd'hui dans une version magnifique, en ultra haute définition. Franchement, c'est peut-être un des meilleurs films de Walter Hill. Certains disent peut-être que c'est le meilleur. C'est un film dont le tournage a d'ailleurs été assez compliqué. Le film a été tourné essentiellement de nuit, au mois d'août de l'année 79. Et pour assurer leur sécurité, l'équipe de tournage avait fait appel à un gang. En fait, c'est un gang de New York qui assurait la protection de l'équipe pendant le tournage. Moyennant, je crois, $500 par jour. Donc, les cinéastes ont pu tourner leur film. Et c'est un film assez remarquable. Il y a une tension qui va évidemment crescendo. Et ça a été très physique pour l'équipe, notamment pour les acteurs, parce que les personnages dans le film, en fait, sont quasiment tout le temps en train de courir, parce qu'ils sont toujours en train d'échapper à un danger potentiel. Donc ça s'appelle Les Guerriers de la Nuit, et c'est ma recommandation pour ce soir, mon cher Laurent. Mais je te laisse le micro, parce que j'imagine que de ton côté aussi, tu as une petite sélection de films à offrir.
Oui, on va commencer par un film d'animation, japonaise, film de 1988-89. Alors, c'est un film, ça c'est surtout, on va dire, une sorte de mini-série, je dirais, qui est sorti chez Anime, qui est un spécialiste, en fait, des productions et d'édition de manga. Et donc là, pour cette mini-série l'auteur est Toshio Okada, et donc qui raconte en 2021 l'histoire d'une adolescente qui intègre une école de pilotage de robots afin d'aller dans l'espace et suivre les traces de son père, un amiral tué 8 ans auparavant par des extraterrestres. Et donc c'est produit par le studio Gainax, à qui on devra plus tard d'ailleurs le mythique Evangelion. Et donc cette mini-série joue parfaitement sur l'introspection des personnages à travers une intrigue où combat, amitié, romance, abnégation, courage et espace-temps font souvent mouche. C'est vraiment de la grande animation, de très haute volée pour une mini-série. Et donc ça vient de sortir en Blu-ray. Seul et unique support, en tout cas
disponible. Je ne sais pas si tu as dit le titre, par contre.
J'y viens. Ah. Et donc, cette série s'intitule Gunbuster. Voilà.
Très bien.
Et donc, c'est déjà disponible, c'est déjà paru. Voilà.
Ça, ça va faire plaisir aux fans.
Oui, je crois. Et puis là, on va verser, alors on change radicalement d'univers, et là, dans le cinéma italien et dans le registre de la comédie, il y a quelques films qui sont sortis chez Tamassa Film. Et donc, on va commencer par une comédie de Luigi Comencini avec Nino Manfredi, Gian Mario Volonté, Mario Adore. La musique est signée Piero Umiliani. Film de 1961. C'est à cheval sur le tigre.
Ah oui, voilà un titre fort original. En plus, de toute façon, chez Tamassa, ils ont une très belle politique éditoriale. Oui. Donc, c'est une comédie incontournable.
Voilà. Et puis, en plus, avec la pochette qui est vraiment d'origine. Ah donc, ouais. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, c'est l'histoire d'un petit délinquant qui est accusé par trois criminels d'avoir favorisé leur évasion de prison. Eh bien, se retrouve avec la police aux trousses. Et donc, je dirais, c'est dehors de farces ponctuées de rebondissements policiers, eh bien ce film, magistralement écrit et interprété, révèle peu à peu son identité profonde de critique sociale barbelée et de réflexion terriblement cruelle sur la nature humaine, un des fleurons de ce qu'on appelait autrefois la comédie italienne. Voilà. Donc c'est paru dans une édition combo, donc on retrouve le DVD et le Blu-ray, et donc c'est déjà disponible, en tout cas au passage, dans une très très belle restauration. Donc on ne peut que remercier Tamassa, et on reste en fait dans cette collection Tamassa avec un autre film, une autre comédie italienne, signée cette fois-ci par Dino Risi, Franco Rossi et Luigi Filippo D'Amico, avec là encore Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, musique Armando Trovajoli, film de 1965, c'est Les Complexés.
Ah oui, ça c'est pas mal.
Et donc, l'histoire d'un homme timide qui tente de séduire une collègue. Ça c'est un film à sketch. Hein.
Oui, c'est ça.
Et donc, les autres petites histoires, eh bien c'est l'histoire d'un professeur qui cherche à contrôler son image publique et autre un aspirant présentateur télé doté d'une dentition proéminente qui réussit toutes les épreuves. Donc un film à sketch qui démarre gentiment jusqu'à un dernier acte, assez fabuleux d'ailleurs en termes de férocité, vous l'imaginez, hein, vu le pitch, d'ironie et d'hypocrisie où brille l'étourdissant Alberto Sordi. Voilà. Donc également co-scénariste, le comédien romain y déploie d'ailleurs un renversant numéro comique particulièrement mordant en surdoué auquel on ne peut pas se résoudre à avouer son défaut télégénique rédhibitoire. Un grand moment, en tout cas, en perspective. Et donc, là encore, c'est dispo dans une édition combo DVD et Blu-ray. Donc, et l'autre sortie, parce qu'il y a une troisième, hein, c'était une vague italienne, pour un film de Dino Risi, réalisé en 1959, là encore une comédie qui s'intitule Il Vedovo, le veuf, titre français.
Ah, c'est très bien ça.
Avec Alberto Sordi, Franco Valeri et Livio Lorenzone, avec musique là encore Armando Trovajoli, qui raconte l'histoire d'un homme d'affaires médiocre, marié à une femme beaucoup plus riche que lui, qui compte totalement sur l'aide de cette dernière, alors que leur couple bat de l'aile et finit même par vouloir la supprimer. Donc, c'est magistralement interprété, notamment d'ailleurs par un Alberto Sordi aussi ridicule que virevoltant dans son rôle de loser. Et donc, cette comédie à l'italienne draine tout ce que le genre incarne en termes de satire et de cynisme, avec au final un petit virage vers le polar. Voilà. Donc là, une belle réussite, là encore, sur ce titre-là, qui est disponible en édition combo. Et tous ces films ont bénéficié d'une excellente restauration. Donc c'est le moment ou jamais de vous les procurer. Si vous êtes fan de comédie italienne, il ne faut surtout pas manquer cette brochette de trois films chez Tamassa.
Ah oui, c'est sûr. Ben, ça donne envie, il va falloir casser la tirelire pour ces fêtes de Noël.
Le moment des fêtes, c'est toujours la question du choix cruel, cornélien.
Oui.
Allez, et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de sorties sans sorties, je dirais, asiatiques, hongkongaises.
Ah bah oui, ça m'aurait étonné quand même, si oui.
Avec un petit coffret sorti chez HK Vidéo Métropolitane. Tu en as peut-être parlé, non, peut-être pas.
On va y voir, on sait jamais.
Film réalisé par Patrick Tam et Ching Sui Tung avec Adam Chang, Norman Chu et Flora Chung.
Je ne crois pas en avoir parlé.
Alors, on y retrouve deux films. The Sword et Duel to the Death, c'est les contes du sabre.
Voilà. Oui, non, effectivement, j'en ai pas parlé, mais deux fleurons du genre.
Oui. Donc l'histoire, le pitch, c'est l'histoire d'un guerrier qui entre en possession d'une épée au pouvoir surnaturel. Et l'autre film, c'est l'affrontement entre le champion épéiste de Chine et son homologue japonais. Et donc, ces deux fleurons du cinéma d'arts martiaux, basés sur des combats ambitieux, très bien réglés, auxquels se conjugue une psychologie habile des personnages pour le tragique The Sword, et qui peut ainsi être considéré comme suggéré dans sa présentation comme le premier film de sabre chinois existentiel. Donc, ça vaut, je pense, le détour. Ouais. Et je pense que voilà, ça fera certainement un de nos prochains achats qui trônera sur notre étagère.
Fièrement.
voilà, fièrement. donc voilà, c'est peut-être vraiment très très intéressant. Et alors, je voulais vous parler, je pense qu'on n'en a pas parlé dans la rubrique import, parce qu'il y a quand même quelques petites pépites.
Ouais.
Et en particulier...
J'allais y venir parce qu'il y a un titre qui m'intéresse fortement, mais je te laisse, peut-être que c'est celui-là dont tu vas parler.
Peut-être. Là, c'est pour faire un petit peu référence à une maison de production qui a été extrêmement prolifique, alors qui n'a pas fait que des grands films, hein, certes, mais ça a été vraiment une firme qui a, on va dire, relancé le cinéma de genre. C'est la Hammer.
Ah oui, bah Hammer Film, oui.
Et donc la Hammer Film a été extrêmement productive cette année 2025 et elle ne compte pas s'arrêter là en 2026. Et donc, pour le coup, il y a eu des sorties en Angleterre d'éditions collector de titres qui, rappelons-le, et ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui chinent et qui recherchent en fait quand même, non pas que de l'import, parce que si vous n'êtes pas extrêmement doué en anglais et s'il n'y a pas de sous-titres, ça va être un peu compliqué. Et là pour le coup, toutes les sorties Hammer de cette année en Angleterre sont sorties dans des coffret luxueux et en plus de ça bénéficiant de sous-titres français. Et donc il y avait récemment, enfin actuellement en tout cas, qui devient disponible en France, on peut avoir ce titre là, c'est The Man of Sherwood Forest, donc La Revanche de Robin des Bois de Val Guest, donc dans une édition combo UHD plus Blu-ray. Donc vous avez vraiment la totale. Et en plus, dans un coffret avec des cartes postales, enfin, c'est vraiment excessivement luxueux. Et donc, à côté de cela, il y a Studio Canal, qui va bien sûr rendre un hommage à la Hammer Film, parce qu'en fait, tout simplement, en Angleterre, eh bien, ils proposent deux films de la Hammer. Le premier, c'est Scars of Dracula, donc les cicatrices de Dracula, et The Horror of Frankenstein, les horreurs de Frankenstein, le premier sortant aussi aux États-Unis chez Kino Lorber en décembre. Et donc le second chez Severin Film en 2026. Et aux États-Unis, Vingar Syndrome sortira The Man Who Could Cheat Death, l'homme qui faisait des miracles, de Terence Fisher. Mais la meilleure nouvelle venant de la Hammer Film est la confirmation de la parution en 2026 de la version intégralement restaurée de Dracula, le cauchemar de Dracula, l'un des sommets fantastiques du studio. Et donc ça, bien sûr, on l'attend avec impatience.
Ah oui, c'est quand même le classique.
Oui, le grand classique.
Un des grands classiques de Dracula qui a lancé Christopher Reeve, on peut dire. Super film de Terence Fisher.
Christopher Lee.
Qu'est-ce que j'ai dit? Christopher Reeve? Non, Christopher Lee. Mais non. Christopher Lee, le grand Christopher Lee, d'ailleurs, grand aussi en taille. Très bonne.
Donc
très
bon, c'est vrai que c'est un titre en plus très attendu.
Oui, totalement.
Parce que me semble-t-il, il n'y a pas eu de haute définition pour ce titre, je crois. Pour des questions, me semble-t-il, de droit. En DVD, il y a eu des quelques éditions, mais voilà. Donc,
Je me souviens de la projection de ce film à la télé française. Ça devait être dans les années, fin des années 70, début 80. Et je me souviens, dans Télépoche, ils avaient mis un carré blanc, là, et puis un texte blanc sur fond noir, enfin, l'air de dire, attention, ça va traumatiser vos enfants, il faut bien... voilà. Donc voilà. Moi, je pensais à une autre sortie chez Arrow Film, au mois de janvier, parce que c'est les Contes du Sabre qui m'ont fait penser. La sortie, je crois, pour la première fois, en ultra haute définition, du film de John Borman, Excalibur. Donc Excalibur va sortir dans une édition, là aussi, luxueuse, avec pas mal de goodies, et mais surtout voilà, cette restauration du film, c'est quand même un des meilleur film de John Borman, c'est peut-être d'ailleurs un des meilleurs films consacrés d'ailleurs au Chevalier de la Table Ronde. Je trouve qu'en tout cas l'incarnation de Merlin dans ce film est vraiment magnifique, c'est peut-être un des meilleurs Merlin qu'on ait vu sur grand écran. J'adore ce film, Excalibur, même s'il y a un côté, c'est vraiment pas se cacher, un petit côté un peu kitsch, hein, voilà, dans les décors, les, bon. Mais moi je l'ai vu plusieurs fois, je ne m'en lasse pas, et il y a une distribution fabuleuse, Hélène Mirren, également dans le film, c'est sublime. Excalibur, au mois de janvier, chez Arrow Film, en ultra haute définition, et ça, ben j'espère qu'il y aura une édition française. Moi, en tout cas, je n'attendrai pas, je me procurerai cette édition Arrow Film en janvier prochain. Bien, mon cher Laurent, peut-être que, on a déjà donné pas mal de pistes à nos auditeurs. Et évidemment.
Je pense, oui, parce qu'entre la semaine dernière avec les coffrets.
Et oui, et puis c'est pas fini, parce qu'il y a d'autres.
Oui. Alors, juste pour finir, hein, parce que c'est vrai qu'on en, nous, on n'en a pas trop parlé, parce que. Mais avec le Black Friday, vous pouvez vous procurer jusqu'à ce soir une certaine sélection, en tout cas, de coffrets, sur différentes enseignes, hein, d'ailleurs, hein, parce que bon. Je pense que ce sont des tarifs éditeurs, quasiment à moitié prix pour certains. Donc ça vaut vraiment le détour. Allez jeter un petit coup d'œil, parce que bon, sur certains titres, ça reste des titres d'anthologie et qui resteront en tout cas de façon inébranlable dans votre vidéothèque. Donc ça peut être de bonnes affaires avant les fêtes, avant qu'ils ne repassent en plein tarif. Voilà.
Exactement. Et puis, je vais quand même faire de la publicité pour cette enseigne qui s'appelle Leclerc, quand même, puisque si vous allez à l'espace culturel, tant pis, je fais la pub. Pourquoi ? Parce que il se trouve que au rayon DVD de l'espace culturel Leclerc à Limoges, eh bien, on y trouve des titres de l'éditeur, ce label assez confidentiel qui ne vend en général que sur Internet, c'est Pulse Édition. Et donc, il les propose à la vente, ainsi que Le Chat qui fume. Donc, vous pouvez y aller, vous allez trouver des petites pépites.
Parce que Pulse Édition, juste pour préciser, c'est qu'en fait il y a certains titres, mais ils travaillent beaucoup en crowdfunding, et donc si vous avez l'occasion, vous pouvez bénéficier de certains tarifs préférentiels, mais après forcément c'est un petit peu plus compliqué, à part d'avoir des magasins hyper spécialisés, et donc ça c'est une bonne initiative de leur part. Et aussi, comme tu le disais, Chris, Le Chat qui fume, qui n'est pas distribué partout, loin de là. Et donc, c'est quand même, là encore, une belle opportunité que de trouver ces titres dans cet espace.
Voilà.
Sans faire de publicité.
Non, mais quand il y a un effort de fait, il faut le signaler
quand
même.
Voilà, tout à fait. Parce que là, c'est sur Limoges, c'est quand même, c'est quand même restreint. Le choix est quand même assez restreint, à part d'aller, bien sûr, sur le net. Mais donc là, c'est une belle initiative. Voilà.
Belle initiative, et puis c'est vrai que c'est un espace plutôt bien achalandé. Eh bien, on va faire une pause musicale à 21h35 sur RTF. Musique de film, j'imagine, je me tourne vers Laurent qui est toujours aux manettes. Il faut le voir derrière ses piles de CD, tout ça. Je sais pas comment il fait. Hein,
J'ai du mal à me mouvoir tellement il y en a.
Ah oui, je me sentais un peu à l'étroit.
Le problème, c'est que notre collection est telle que on a du mal à se faufiler.
C'est acrobatique à chaque fois.
Ben oui.
Alors, que nous as-tu préparé à la mi-temps de l'émission ?
Eh bien, on continue en fait notre hommage à Che Guevara avec la musique de ce film que tout le monde connaît. On est en 1988, film réalisé par Jean-Jacques Hano. C'est L'Ours.
Oui, ça avait eu un énorme succès à l'époque, hein, et mérité d'ailleurs, parce que c'était quand même très bien réalisé en fait. Hein.
Oui, film d'aventure, documentaire, avec donc Che Guevara entre autres, mais il y avait aussi Philippe Rousselot, André Lacombe, Jack Wallace, et puis bien sûr, et bien L'Ours.
Ah bah oui, L'Ours quand même.
Ah bah oui, et le compositeur.
Et Philippe Sard. Voilà. Du coup, j'ai comme un petit doute. Mais non, mais... Philippe Sard, absolument.
D'ailleurs, Philippe Sard, qui est en tout cas à l'affiche discographique, parce qu'il y a eu une petite édition qui regroupe une sorte de sélection assez simple, hein, d'ailleurs, mais où il y a pas mal d'inédits, en tout cas, dessus. Ça vaut vraiment ça peut valoir le détour, hein, pour vraiment les aficionados du compositeur. Je crois que voilà, c'est...
J'en vois un devant moi.
J'ai du mal à le cacher quand même. Hein,
ouais. Voilà. Eh bien, nous allons donc repartir en 1988 avec cet ours
de Jean-Jacques Haneau. À peu près 5 minutes de composition concernant donc ce film de Jean-Jacques Haneau, qui est un grand succès.
Avec Tchéky Cario dans le rôle principal.
Allez, tout de suite, Philippe Sard.
Thank you.
Les films de la semaine, ce soir.
L'inconnu de la Grande Arche, L'étranger, Des preuves d'amour et Bugonia. Voilà, donc quatre films au programme ce soir. On va commencer par le film qui est dans l'actualité la plus récente, Bugonia de Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos, cinéaste grec qui retrouve ici les comédiens Emma Stone et Jesse Plemons pour un thriller qui mêle gore, humour noir et complotisme. Teddy et Don, son cousin un peu simplé, en sont persuadés. Michelle Fuller, présidente redoutable d'une grande firme chimique, est une chef extraterrestre. Sa mission, dérégler le climat, détruire les abeilles, coloniser la Terre, voilà. Bon. Pour détourner Michelle de son objectif, Teddy et Don la kidnappent et la séquestrent dans le sous-sol de leur ferme. Ils lui rasent la tête pour éviter qu'elle ne contacte son vaisseau-mère avec ses cheveux. Commence alors un huis clos fait d'affrontements psychologiques et physiques entre Michelle et ses ravisseurs, nourri aux théories complotistes du dark web. Emma Stone interprète donc le rôle de Michelle Fuller, cette PDG d'une grande firme chimique. Jesse Plemons incarne Teddy et Aidan Delvis, son cousin Don. Alors Bugonia, c'est le remake, il faut le savoir, le remake d'un film sud-coréen, assez farcesque d'ailleurs, de Jang Jun-wan, sorti en 2003. Voilà, alors c'est un film, alors c'est intéressant parce que d'habitude Yorgos Lanthimos est vraiment l'auteur complet de ses films, c'est-à-dire qu'il en conçoit le sujet, il en rédige le scénario. Ici c'est pratiquement une commande, c'est-à-dire que c'est pas lui qui est vraiment à l'origine du projet, et du coup on a un film que je trouve finalement peut-être un petit peu moins débridé que ses précédents films, un film peut-être plus classique de facture, en tout cas dans lequel le metteur en scène est beaucoup plus sobre dans ses effets. C'est-à-dire qu'on se souvient par exemple de Pauvre Créature, où il utilisait pas mal d'objectifs fish-eye, enfin des choses comme ça, donc histoire de distordre, de déformer la réalité. Ici, bon, on est dans un cinéma peut-être un petit peu plus classique, même si, et c'est ça qui est bien, Yorgos Lanthimos, tout en étant plus sobre, eh bien, reste fidèle à lui-même, et finalement, le film est assez jouissif, car quand même, il y a des effets quand même assez surréalistes, il y a des choses assez incroyables qui se passent. Alors le film peut être vu vraiment comme un discours anti-capitaliste, mais aussi une charge contre les complotistes de toutes sortes, et ça c'est vraiment assez plaisant, et tout cela donc dans une mise en scène vraiment efficace, très belle photographie, la musique de Jerskine Fendrix également assez puissante, je trouve apporte un décalage bienvenu à tout ça, et l'interprétation voilà des comédiens principaux qui est vraiment remarquable comme d'habitude. C'est vrai que Emma Stone donne vraiment se donne corps et âme, si je puis dire, pour les films de Yorgos Lanthimos à chaque fois.
Bah, disons qu'il y a véritablement un désir d'Emma Stone, en tout cas, de proposer, en fait, ou d'apparaître dans des projets où on ne l'attend pas. Et ça, c'est depuis voilà, qu'elle a fait une sorte de rupture avec les blockbusters, même si elle ne les boude pas, en tout cas. Elle a envie d'autre chose, et ça se voit. Mmh. Et c'est vrai que peut-être Lanthimos est peut-être, je dirais, le sauveur hein, dans une carrière qui est quand même assez prolifique. Hein.
Mmh. Et je crois qu'elle est coproductrice du film.
Oui, j'ai du mal à donner un avis comment dire, impartial, parce que j'adore Emma Stone. Et oui. Et donc là, pour le coup... mais c'est vrai que voilà, la porte.
Son physique étrange d'ailleurs correspond tout à fait au personnage dans le film.
Mais bon, elle a quand même un certain charme quand même.
Ah oui, totalement. Même quand elle n'a plus de cheveux sur le caillou. Quand même. Non mais elle a une. Elle nous emporte à chaque fois. Mmh. Elle a une force de conviction. Et moi, pareil, j'aime beaucoup cette comédienne. J'avais d'ailleurs trouvé son monologue dans La La Land absolument éblouissant à l'époque, et c'est vrai que voilà, elle a décidé vraiment de proposer et de se donner des challenges aussi. Je crois que c'est ça aussi.
Hein. Ben je crois que Lanthimos est aussi peut-être une sorte d'oasis hein, dans le cinéma d'aujourd'hui, contemporain, pour proposer quelque chose, un univers totalement différent, même s'il est voilà, quelque peu déjanté, mais bon, en son temps, Burton a aussi proposé quelque chose, voilà, donc totalement différent, hein, il n'y a pas de comparaison à avoir, mais en tout cas, voilà, c'est des projets qui se tiennent. Et aussi, en tout cas, un long métrage qui m'a en tout cas apporté bien du plaisir par son sujet et aussi de la façon dans le fond et dans la forme.
Exactement.
Donc franchement, voilà, c'est plutôt une réussite.
C'est une réussite et puis peut-être que par rapport, parce que j'imagine qu'il y a un public qui se méfie un peu de Lanthimos, parce que c'est vrai qu'il avait sorti des films un petit peu particuliers, c'est peut-être le plus accessible d'une certaine façon, hein, ce dernier film. Voilà. Alors quand même, moi j'aime beaucoup le film et voilà, je me suis dit, bah ouais, vraiment, là, je viens de voir un film vraiment très très bien, enfin formidable, sauf que la fin. Voilà, sauf que la fin, parce que j'ai l'impression qu'avec les 10 dernières minutes, en fait, j'ai l'impression que Lanthimos déconstruit tout ce qu'il a raconté au début. C'est-à-dire que j'ai l'impression que on ne sait plus ce qu'il veut dire à la fin, Lanthimos. C'est ça qu'il imaginait, c'est-à-dire que il y avait quand même. Je ne veux pas spoiler, je ne peux pas. C'est difficile parce que sans raconter la fin, mais je trouve que cette fin, pour moi, elle dessert le film. Elle dessert totalement le film. Dans son propos, par rapport au propos du film. Donc, soit c'est moi qui n'ai pas compris le film, soit Lanthimos. Alors, je sais pas. Il renvoie tout le monde dos à dos. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça ne va pas. Alors, en plus de ça, les scènes. Alors, visuellement, alors là, il y a du bon et du beaucoup moins bon. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Il y a des choses qui m'effraient, franchement, d'un ridicule. Moi, ça m'a fait penser, tu sais, mais quand il le faisait volontairement, à Joe Dante dans Explorers. Mais surtout, ça m'a fait penser à John Boorman quand il fait les choses sérieusement sur Zardoz, qui est d'un ringard, d'un kitsch, mais c'est une laideur. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, mais là, je viens de voir un super film, et là, il nous balance un truc. Et alors, c'est dommage, parce qu'il y a quand même des plans. Il y a quand même des plans. Je ne vais pas dire ce que c'est. Il y a des plans qui sont vraiment assez stupéfiants en même temps. Mais voilà. Moi, j'avoue que voilà, allez voir le film parce que ça dure quand même bien 2 heures, hein, plus de 2 heures. Mais la fin, moi, m'a laissé un goût vraiment amer. Je trouve que cette fin, il fallait arrêter avant, en fait, en gros. Je pense qu'il fallait arrêter le film à un certain moment. Je peux pas dire à quel moment, mais bon. Je sais pas ce que t'en penses, Laurent. Est-ce que tu ne retrouves pas que ça dessert le propos du film?
Alors moi, j'ai pas retrouvé cette perception-là. Alors je pourrais donner une explication, mais malheureusement, je peux pas la donner. Non, mais si vous allez voir le film, voilà, il faut pas trop spoiler.
Non.
Ça serait un petit peu dommage. Mais il y aurait peut-être une explication à ce final. Voilà.
Bon, écoute, alors ça c'est comme ouais. C'est dommage parce que après, si tu veux, bon, les personnages, ça c'est intéressant dans le film, notamment le personnage incarné par Jesse Plemons est tour à tour totalement effroyable, mais aussi parfois, je dirais. On éprouve de la sympathie aussi pour lui. Hein. Il y a un côté à la fois pitoyable et puis et de temps en temps il est sympathique.
Après, dans son propos, il n'a pas tout à fait tort aussi quand on connaît les tenants et les aboutissants de pourquoi il en est arrivé là aussi.
Oui, non, mais d'accord, mais cela dit, pour moi, la fin. La fin remet tout en question. Enfin, ça, Non. Non, je trouve que ça fait un peu, tu sais, le mec, il dit, ouais, de toute façon, les gens vont jamais penser que je vais finir comme ça. Et en fait, son petit malin, tu sais, et puis non, mais il finit finalement comme ça, et moi, ça me plaît pas. Non, je trouve que ça va pas. Bon, enfin, bon, c'est dommage. Donc, Bugonia, on est passé pas loin d'un grand film, hein, c'est dommage.
Oui, mais enfin, bon, cela dit, quand même, ça flirte quand même avec.
Voilà. Non, c'est quand même, ça reste un film à voir.
Oui, ouais. Oui.
Alors, c'est vrai que derrière moi, il y avait un spectateur qui arrêtait pas de pouffer dans mon dos, là. Il disait, mais je dis à ces gens-là, écoutez, quand vous allez voir un film de cul, et qu'il y a du cul, ben vous pouffez pas, merde, quoi. Hein? Vous savez à quoi vous attendre. Et bien, quand on va voir un film de Yorgos Lanthimos, finalement, ben, il ne faut pas s'étonner. Enfin, on s'étonne si, on est toujours un peu étonné, mais enfin, c'est du Lanthimos. Ben, moi, ça m'énerve un peu, ça, tu vois, cette attitude. Tu vois, alors, c'est comme un film d'horreur. Ben, ah, maman, c'est une tête qui est tranchée. Ben, ouais, ben oui, ben, c'est un film d'horreur, mes gars, hein, mes petits gars. Là, sinon, faut pas y aller. Donc, moi, non, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que cette fin, c'est un peu dommage.
Moi, je serais un petit peu plus radical, mais là, c'est sur le projet, pas forcément sur le film Bugonia, hein, c'est sur un ensemble. C'est qu'en fait, certaines fois, hein, sur certaines projections, eh bien, là, on commence à un certain nombre, et puis on finit avec un nombre inférieur. Non, mais je pense que c'est un petit peu plus radical, mais plutôt que voilà, de saouler les autres spectateurs. Si, voilà, bon, si,
ça veut dire qu'au moins le film ne laisse pas indifférent, hein, d'une certaine façon.
Oui, oui.
Donc ça, c'est
enfin, moi personnellement, en tout cas, pour ce qui est de Bugonia, moi je vous invite à aller le voir parce que c'est quand même novateur. C'est vraiment ce qu'on peut proposer de plus, je dirais. Peut-être pas expérimental, mais en tout cas, voilà, d'original, en tout cas dans la programmation aujourd'hui.
Oui, non, mais tout à fait. Moi, c'est pareil, je vous recommande ce film, Bugonia, avec les quelques réserves que je vous ai exposées. Alors, on va changer de registre. Quoi qu'on va quand même parler un petit peu d'amour aussi. C'est Des preuves d'amour, film d'Alice Douard avec Monia Chokri, Noémie Lvovsky et Ella Rumpf, film qui est encore à l'affiche Des preuves d'amour. Alors tu as vu ce film, Laurent, c'est quoi un petit peu le pitch?
Alors c'est un film, c'est un film relativement sérieux quand même, hein, mais il raconte en tout cas le long et chaotique parcours d'adoption d'un couple de femmes. Raconté dans un film assez, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça, hein, assez solaire et généreux, et avec des interprètes qui sont assez fabuleuses. Voilà. Donc, et en particulier, j'ai une petite faiblesse pour Ella Rumpf, parce qu'en fait, c'est son personnage en fait, hein, qui est plutôt central, même si. Il y a aussi, bien sûr, le personnage de Monia Chokri, mais il faut quand même savoir que, on va dire que toutes les deux ont triomphé au César 2024 et la Rumpf en révélation, hein, pour le théorème de Marguerite, et Monia Chokri en film étranger avec Simple comme Sylvain. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film.
J'avais beaucoup aimé en ce
qui
me concerne.
Oui. Et donc, Alice Douard a eu la belle idée de les réunir en tête d'affiche de son emballant premier long métrage, découvert d'ailleurs à la Semaine de la Critique cannoise. Et elles y incarnent Céline et Nadia, un couple au féminin qui attend la naissance de leur premier enfant que Nadia porte. Et donc le récit, inspiré par ce qu'a traversé la cinéaste, nous entraîne dans l'intimité de ces deux femmes et leur quotidien bouleversé par cette naissance à venir et les questions qu'elles posent à Céline. Les questions qu'elles posent à Céline en quête d'une légitimité et d'une place, parce qu'en fait on comprend que dans cette situation là eh bien tous les droits vont à la femme qui porte l'enfant. C'est-à-dire que la compagne la femme, hein, parce qu'elles vont se marier, eh bien n'a aucun droit sur l'enfant tant qu'elle ne l'a pas adopté, même si elles se sont mariées. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est un petit peu l'incohérence en fait de la situation. Et donc forcément, même s'il y a, on va dire, cohésion, osmose dans le couple, eh bien il y a quand même un parcours du combattant, et en particulier par la personne qui adopte. Voilà. Et c'est pas toujours très facile. Et ce film-là, tout en étant sérieux, aborde le sujet sur le ton aussi par moment, avec des petites notes d'humour. Il y a vraiment une très grande fraîcheur sur cette histoire totalement sérieuse et qui peut créer en fait des drames aussi au sein de ces couples. Et franchement, on est participatif, je dirais. Parce que vraiment, c'est un film extrêmement frais avec qui incarne la joie de vivre. C'est assez rare aujourd'hui dans la programmation, quel que soit le sujet. Et là, vraiment, c'est deux femmes qui sont battantes et qui vraiment en veulent, même si, bien sûr, il y a des hauts et il y a des bas. Mais en tout cas, c'est un film qui est vraiment aux antipodes du banal film à sujet.
Ça, c'est important.
Hein. Voilà, ça c'est parce que bon. Il y a des tas de films voilà, qui sont...
Oui, il y a des films dossiers, on va dire, voilà, assez programmatiques.
Tout à fait, qui sont des thèmes d'actualité aussi, et qui sont un petit peu barbants, parce que, voilà, c'est académique. Et là, il n'y a pas véritablement, en plus, il n'y a pas de jugement. Et c'est vraiment grâce au jeu d'acteurs, mais aussi à la qualité d'écriture scénaristique de ce film. Et je pense que c'est pour cela... Il n'y a pas que le sujet, en tout cas, qui l'emporte, que le film rencontre un vif succès. Parce que moi, quand j'ai vu le film, la salle elle était quasiment pleine. Donc, et le film est sorti quand même un peu plus de la mi-novembre. Donc, pour vous dire que voilà. Et donc, je l'ai vu dernièrement. Et aussi, je pense, un film où il y a beaucoup de tendresse. C'est pas romancé, c'est vraiment c'est authentique. C'est un film radicalement authentique, portant une énergie, une générosité. Franchement, c'est un film qui est irrésistible, mais c'est surtout par ses actrices aussi, par l'écriture, l'histoire. Mais vraiment, c'est une belle réussite. En tout cas, moi j'étais vraiment très agréablement surpris.
Oui, d'après ce que tu dis, on sent vraiment une sincérité dans le propos.
Et vraiment, je dis solaire, c'est un film solaire avec une énergie positive de bout en bout, même si par moment il y a bien sûr des petits coups de blues, mais c'est le propre de chaque couple aussi. Mais là, c'est sur l'affrontement en fait. De la situation et aussi bien sûr ça, le film n'évite pas les esprits psychorigides dans ce genre de situation et donc vous pouvez imaginer, mais franchement c'est vraiment un film que je vous conseille vivement d'aller voir.
Alors, deuxième film de la soirée que nous vous conseillons après Bugonia, allez voir ses preuves d'amour. Alors un film dont on n'a pas encore parlé, mais qui obtient, je crois, un succès d'estime, qui fonctionne pas mal, c'est L'Inconnu de la Grande Arche, qui raconte l'histoire de cet architecte, alors je sais plus s'il est danois ou suédois, qui a été convié par François Mitterrand à élaborer cette fameuse Grande Arche de la Défense, je crois, me semble-t-il.
Oui. Alors cet inconnu, parce que bon, a un nom quand même.
Oui.
Alors j'ai essayé de le travailler quand même, parce que voilà.
Mais c'est vrai que t'es plus habitué, je veux dire, aux japonais, voire aux chinois, que voilà.
Eh oui, c'est un architecte de 53 ans, danois.
Danois.
Qui s'appelle, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle l'inconnu de la Grande Arche.
Parce qu'il a un nom trop compliqué.
Non, c'est pas du tout ça, mais enfin. son nom, c'est Johann Otto von Spreckelsen.
Ah, c'est pas mal. Oui. Tu t'en sors bien.
Travaillé pendant au moins 15 jours. c'est un film signé Stéphane de Moutier, à qui on doit l'excellent film Borgo aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bien
défendu dans l'émission.
Ouais, je vous le conseille d'ailleurs, parce qu'il est sorti à la vidéo. Si vous voulez avoir un bon polar à la française, c'est vraiment le film à voir. Donc là, on change radicalement de sujet. Film plutôt documentaire, je dirais, qui explique en fait le cheminement de cette grande arche. Paris La Défense, hein, pour quand même préciser, parce que la Grande Arche, voilà.
Et, oui.
Comment a-t-elle vu le jour? Comment elle a évolué? Est-ce qu'on spoil peut-être?
Oh, un petit peu spoiler maintenant. Parce que c'est...
Pourquoi on appelle l'inconnu, en fait, oui. De la Grande Arche?
Oui. Allez, on se lance.
En fait, l'explication est totalement en fait politique, parce que voilà, on cerne un petit peu le personnage de cet architecte danois qui est totalement inconnu du grand public et qui rencontre en tout cas un vif succès auprès de François Mitterrand, parce que c'est lui qui choisit en fait ce projet. Pour en fait ériger donc cette arche de Paris de la Défense. Et donc pour le trouver, c'est la croix et la bannière. Et donc et pour le joindre aussi, parce que pour le coup, je crois que l'explication est purement, je dirais, politique, parce que cet architecte est vraiment c'est l'histoire de sa vie. Hein. Il n'a jamais eu d'ailleurs un projet aussi pharaonique que celui-ci. Et c'est vraiment le projet de toute sa carrière, toute sa vie. Il a rêvé en tout cas sur ce projet. Et donc, en 88, Mitterrand perd les élections. Enfin, il est réélu, mais rapidement, il va donc devoir subir une cohabitation. Et au moment de la cohabitation, eh bien, l'arche n'est pas finie. Hein, elle est en cours de construction. Et le projet tel qu'il était, décidé initialement, eh bien, va tomber un petit peu à l'eau, parce que c'est Alain Juppé qui arrive donc en tant que Premier ministre et qui va couper les cordons de la bourse. je puis dire. Et donc, il va pas stopper le chantier, mais en tout cas, il va falloir revoir sérieusement la baisse, les dépenses, et du coup, dans la pièce de la Grande Arche, il va y avoir une très grande modification, parce qu'il y aura plein de petites constructions accessoires autour de cette Grande Arche qui vont totalement disparaître. Et dans le choix aussi des matériaux, on va revoir sérieusement la baisse avec de la qualité moindre. C'est ce qui était, décidé par l'architecte lui-même, qui s'était réservé en tout cas certains matériaux et sur lesquels il ne voulait pas, en tout cas, négocier, discuter. Et donc, du coup, du fait de décisions un petit peu drastiques, cet architecte va se retirer du projet. Et donc, il donne sa démission à François Mitterrand. Et donc, du coup, cette Grande Arche ne verra jamais le jour, en tout cas en l'état, ouais, du projet initial. Et donc, voilà l'explication, de cela. Mais,
c'est intéressant.
Mais le film en lui-même est vraiment d'une énergie, là encore, parce que, franchement, c'est très communicatif. Et l'énergie que, en fait, on va dire, disséminer cet architecte, son coup va plus ou moins imploser, hein, d'ailleurs, hein, dans ce projet, il est extrêmement communicatif. Et donc, c'est intéressant parce que ce film-là, c'est traité comme une fiction, mais c'est un côté documentaire avec une énergie et véritablement une énergie communicative, il n'y a pas mieux, et c'est extrêmement bien réalisé et très très bien écrit par Stéphane Demoutier. Donc vraiment, là, c'est vraiment une très très belle, là encore, réussite. Et d'ailleurs, le film qui est sorti début novembre est encore à l'affiche.
Ouais.
C'est la preuve, en fait, que ce film-là...
Il y a un intérêt pour le film.
Voilà, fonctionne.
pour ce sujet.
Voilà,
en plus,
succès d'estime, certes,
oui, mais
qui voilà d'une très grande qualité cinématographique, et aussi c'est du cinéma intelligent. Voilà.
Ça, c'est important. Alors c'est vrai qu'il n'en oublie pas de faire du cinéma, c'est ça qu'il faut dire.
Oui, hein, c'est un grand hommage au 7e art, mais en même temps, il apporte vraiment une lumière sur ce que éventuellement, parce que moi j'étais complètement inculte sur.
Oui, mais je pense qu'on apprend des tas de trucs là.
Voilà, sur l'origine de cette grande arche. Et vraiment, c'est avec minutie et précision qu'on assiste en fait au déroulement de ce projet. Et vraiment, c'est en tout cas un très grand film. Voilà, rien que pour cela.
C'est Michel Faux qui joue le rôle de Mitterrand, je crois.
Oui.
Et là, il est bien dans le.
Ouais, honnêtement, oui.
Oui, d'accord.
Oui. Sans pour autant avoir véritablement un mimétisme exacerbé.
Voilà, c'est ça.
Hein. Vraiment, là, il y a quand même un petit peu de distance avec les personnages, parce qu'on y voit Alain Juppé, tout un tas de grandes figures politiques, mais on recherche pas ce mimétisme. Et donc, du coup.
Pas plus mal, oui.
Voilà, vraiment, il y a une distanciation, un recul du metteur en scène. C'est pour ça que je pense que c'est une grande réussite pour tous ces atouts-là, en tout cas.
Décidément, ce soir, vous avez de la chance. Tous les films dont nous vous parlons méritent d'être vus. Alors là.
À part peut-être un, quand même. Hein.
Alors, oui, un dernier mot, peut-être, pour un dernier film. Alors. Oui, Laurent, parce que c'est un film d'ailleurs que je n'ai pas vu, me semble celui dont tu as parlé là. Non, on a parlé de tous les films ce soir.
Eh bien non,
il en manque un, oui.
Il en manque un, mais il me semble que tu l'as vu.
Vas-y,
quand même.
Vas-y voir.
Alors, c'est le film de François Ozon.
Oui, si, oui, bien sûr. L'étranger, mais oui, on a lu. Mais oui, l'étranger, oui. Oui.
Alors.
C'est vrai que j'aurais pu ne pas m'en souvenir, mais bon.
Donc, avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder et Pierre Lotin, donc après Visconti, eh bien François Ozon se heurte à l'écrasante puissance du texte d'Albert Camus et qui offre une lecture décorative à l'esthétique, je dirais, assez maladroite quand même, hein, globalement. Enfin, en tout cas, le film ne m'a pas beaucoup emballé.
Alors, moi, c'est bien quelque chose qui m'a plu dans le film, c'est plutôt son esthétique. Et alors, en fait, ce que j'aime bien dans le film, c'est son ancrage politique est peut-être plus fort, finalement, dans le film que dans le livre de Camus. C'est-à-dire qu'on nous resitue bien le contexte colonial dans lequel cette affaire, l'histoire de cet étranger va avoir lieu, Meursault, voilà, qui tue un arabe. Et ça, cette recontextualisation est toujours intéressante et qui fait... Mais alors, par contre, effectivement...
Peut-être que je me suis mal exprimé, mais l'esthétique de ce film est vraiment fabuleuse, mais elle est, comment dire, ça crée un déséquilibre, en tout cas dans le film,
ouais.
Par rapport, je dirais, à la texture, au rythme, à l'écriture, qui, je trouve, assez soporifique, quand même, hein, globalement. Voilà. Même si le sujet est...
Bah, c'est assez compliqué d'adapter un roman qui est déjà, lui-même, un petit peu métaphysique, hein. Enfin, c'est compliqué. Après, c'est vrai que peut-être qu'Ozon aurait pu, à mon avis, peut-être, si on parle de la forme, soit, là, il est quand même resté assez sobre, quand même. Je trouve qu'il y a une certaine sobriété. Et il aurait peut-être pu aller un petit peu plus dans quelque chose de peut-être plus surréaliste, finalement. Je sais pas. C'est compliqué de le dire, hein. Mais c'est vrai que, bon, il y a quand même ce personnage assez énigmatique, pas très expressif.
Oui.
Du coup, on ne peut pas vraiment s'identifier.
Et qui est extrêmement fermé, quand même.
Ouais.
Et qui a du mal à faire transparaître quelques sentiment que ce soit, enfin on a du mal.
Oui, c'est vrai que c'est peut-être que c'est lié à la nature du roman, hein, mais ouais. Alors bon, moi c'est vrai que je trouvais peut-être le film aussi un peu trop long, et c'est vrai que du coup le film
un peu soporifique quand même.
Il y a des moments, c'est un peu longué, faut bien le dire quand même. On est un peu comme le personnage de Meursault d'une certaine façon, finalement. C'est-à-dire qu'on on subit l'ennui. C'est-à-dire que lui aussi, il est inadapté au monde qui l'entoure, étranger peut-être à lui-même aussi, d'ailleurs, tout simplement. Et donc, c'est vrai que, du coup... alors, après, il y a une deuxième partie, la deuxième partie qui est la partie procès du film, où là, du coup, ça s'anime peut-être un petit peu, où certains ont pensé que c'était peut-être un peu trop explicatif, d'une certaine façon aussi, un petit peu trop... voilà, bon, mais c'est vrai que... Moi, j'ai pas été emballé plus que ça. À l'image de la musique, c'est-à-dire que je trouve que la musique, elle fait le taf, mais elle m'a pas fasciné. J'ai trouvé que dans un film, il faut être fasciné quelque part par quelque chose. Alors, mais ça m'a fait un peu penser maintenant, tu vois, avec le recul, au cinéma d'Antonioni, qui est un cinéma un peu existentiel, où il se passe pas forcément grand-chose. Tu vois, je pense à par exemple Profession Reporter. Tu vois, ce personnage qui bon. Il y a peut-être ça en moins brillant, quoi, d'une certaine façon. Et c'est vrai que le film, du coup, est un peu inégal dans l'ensemble. Je te rejoins là-dessus. Et c'est vrai que par un moment, c'est vrai qu'on décroche quand même et on a du mal à se passionner pour l'histoire de Meursault, en fait. Même si c'est vrai, voilà, l'acteur est bah, physiquement, je trouve qu'il est quand même pas mal, il est bien choisi, je trouve qu'il
oui
est,
non mais c'est, là de ce côté là il n'y a pas grand chose à redire, mais je pense que la captation, en tout cas, de cette histoire et cette transposition, moi, je trouve quand même globalement assez maladroit. Bon, mais en tout cas, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas du grand Ozon, en tout cas.
Non, c'est vrai. Mais c'est le problème d'Ozon. Je trouve qu'il est. Genre, en gros, t'as un film sur deux qui est bien. Je trouve que là. Ça peut dire que ce soit un mauvais film quand même, on peut pas le dire. Hein. Il a ses qualités, hein. Mais c'est vrai que du coup, on est moins impliqué, on est moins. Pareil, c'est difficile à dire.
On est un petit peu distancié. Un petit peu comme le personnage.
Ouais, c'est ça. On a du mal à. Voilà. Bon, c'est vrai que l'étranger, voilà, on adhère un peu moins. Voilà, tout à fait. Bon, ben voilà, quand même, on va faire une petite virgule musicale maintenant, puisqu'il est 22h15, 16 minutes. Ensuite, on se retrouve pour vous parler des films qui vont sortir sur vos écrans ce mercredi.
On a déjà vu d'autres films.
On en a vu d'autres.
On peut pas parler de tous ces films. Ouais. On est obligé de faire une sélection chaque semaine. Et donc, on a déjà vu Dossier 137.
Oui.
Mais alors, Vie privée aussi, voilà.
On vous en parle la semaine prochaine. Bon, Dossier 137, le film fonctionne bien. D'ailleurs, il y a du monde pour le film. Un film aussi dont on a assez peu parlé, mais je vous rappelle son existence, parce que moi, il m'a bien plu quand même. Et je trouvais assez intéressant même. Je trouve que c'est Isabelle Carré qui fait un film un peu autobiographique, Les Rêveurs. Donc, je vous le recommande. Et puis, un film... Bon, un petit mot rapidement, L'Intermédiaire, un thriller qui passe à Esther, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, avec Riz Ahmed, Lily James et Sam Worthington, qui est quand même un peu décevant. Je voulais simplement vous dire ça. Allez, petite pause musicale, mon cher Laurent, que nous as-tu concocté pour l'heure?
Eh bien, on va partir dans une musique radicalement classique, mais de toute beauté, signée par
un compositeur, en tout cas.
Un compositeur, ouais. Mais je dirais un des plus grands, peut-être.
Ouais, un des géants.
Un des géants qui n'est plus, malheureusement, mais qu'on a vu d'ailleurs en concert, c'était à Nîmes.
Eh bien,
dans les arènes de Nîmes.
Les arènes de Nîmes, c'était Ennio Morricone.
Et voilà. Ah oui. Le maître.
Ah bah oui.
Le maestro.
C'est un des plus grands compositeurs de musique de film, peut-être de musique du XXe siècle, d'ailleurs.
Oui. Oui.
On peut dire ça.
Carrière, je dirais, extraordinaire.
Ah oui.
Et puis, nombre de partitions qu'on ne compte plus parce que.
Ah oui, on ne les compte plus. je crois pas loin de 500 compositions pour le cinéma et la télévision. Hein. Alors, peut-être même plus d'ailleurs, parce que certaines années, il pouvait écrire jusqu'à 15 musiques de films, en tout cas dans les années 60. Hein.
Ouais,
c'est énorme.
Et donc là, on va écouter la musique de Nostromo.
Oui, alors ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est pas le plus connu des...
Eh bien non, c'est fait pour ça, d'ailleurs.
Oui, et donc, c'est une découverte pour, la, pour beaucoup.
Oui. Donc, très très belle musique, en tout cas, qu'on vous propose ce soir. C'est pour une œuvre, d'ailleurs, inachevée.
Oui.
De David Lean.
Oui, effectivement.
Et donc, du coup, c'est un film testament. Et la musique est vraiment de toute beauté. Et on vous invite à la découvrir ce soir pendant à peu près pas loin de 6 minutes. Mais voilà, richesse de l'orchestration, de la mélodie. Voilà, du très grand, je dirais, du très grand Morricone. Mmh. Allez, c'est parti, Nostromo. Et on se retrouve juste après pour vous annoncer bien les sorties de la semaine. Qu'est-ce que vous pourrez voir mercredi sur les écrans au cinéma? Eh bien, c'est dans quelques instants après Ennio Morricone.
La musique, c'était la musique d'Ennio Morricone pour Nostromo, superbe composition de Morricone comme tant d'autres. Et c'est vrai que celle-là, je pense qu'elle fait partie peut-être de ses meilleures, mais enfin bon, il y en a tellement. Voilà. On disait hors antenne, ce Morricone, quel génie,
hein. Enfin, oui, c'est un vrai génie.
Et c'est vrai que nous avions eu la chance d'assister à ce concert dans les arènes de Nîmes qui était sublime. Et bien maintenant, à 22h25, sur la pendule de RTF, il est l'heure de vous parler des sorties cinématographiques de la semaine. Quels sont les films qui vont atterrir sur nos écrans à partir de mercredi? Laurent, tu as le listing sous les yeux, je pense. On va t'écouter religieusement.
Allez, on va commencer par un documentaire qui a été réalisé par Alain Berliner pour cette coproduction franco-britannique. Ce n'est autre que Alain Berliner, pardon, et Elora Thévenet, c'est Bardot. Voilà. On n'en dira pas plus, hein, si voilà, vous voulez savoir un petit peu plus d'infos sur cette actrice iconique qui a fait trembler Cannes et puis d'autres festivals, eh bien, allez voir ce documentaire. Ensuite, autre sortie d'Abdeliane Taïa, c'est Cabo Negro. Un film où je n'ai pas grand chose à vous apporter comme info, en fait. Tu as peut-être quelque chose?
Non, je regarde, non, j'ai pas d'infos sur ce film.
Ensuite, autre film très attendu, film réalisé par Roman Boringer, Dites-lui que je l'aime. Donc, ouais. Un film qui, en tout cas, est précédé, en tout cas, d'une renommée assez assez dithyrambique. Qui s'empare, en fait, du livre de Clémentine Autain pour raconter, en fait, les rapports complexes à leur mère, en mêlant brillamment, d'ailleurs, documentaire, là encore, et autofiction. Donc
un film où l'on retrouve Roman Boringer elle-même, hein, qui joue dans le film, et Clémentine Autain d'ailleurs.
Ouais. Film d'Emma Tammy, Five Nights at Freddy's 2.
Oui, c'est la suite de ce film qui avait obtenu un grand succès. Five Nights at Freddy's, c'est d'ailleurs un jeu vidéo à la base, qui a été adapté avec succès, et c'est plutôt sympathique. Et là, la suite arrive sur les écrans ce mercredi. Donc le film va avoir ses fans, je pense, pour ce Five Nights at Freddy's 2.
Coproduction franco-italienne pour le film de Mario Martonet, Fiori.
Ah, ça c'est intéressant.
Ouais. Avec Valeria Golino, Matilda De Angelis et Elodie. Voilà.
Le film s'appelle Fuori.
Fury.
Mario Martone, effectivement. Et ma foi, je vais avoir beaucoup de plaisir à retrouver Valeria Golino, parce que j'aime beaucoup cette comédienne.
C'est sur un portrait de femme, d'ailleurs, de Goliarda, Sapienza, une écrivaine originaire d'une famille de socialistes anarchistes siciliens. Voilà. Qui est émancipée, d'ailleurs, de tous les dogmes, et qui partage sa vie sentimentale entre hommes et femmes, et qui est morte en 96. Voilà, ouais. Pour plus de précision. Ensuite, film de Nathan Ambrosioni, Les enfants vont bien.
Avec Camille Cotin, je crois, dans le rôle principal, et ça n'a pas l'air mal. Hein. Il y a de bons échos. Voilà, je cherchais l'expression.
Autre film de Fabrice Eboué, Gérald le Conquérant.
Oui, alors bon, c'est faux. Avec Eboué, ça peut être pas mal. Il faut, pourquoi pas.
Film d'Emmanuel Bidou, Il a suffi d'une nuit, qui débarque mercredi sur nos écrans. J'ai pas grand chose non plus sur ce film. On le découvrira Très attendu parce que, en fait, le deuxième volet avait quand même fortement déçu le public. Là, c'est le, c'est une sorte de trilogie, hein, de toutes les manières, sur l'adolescence. Dernier film qui débarque mercredi, d'Abdel Latif Kechiche, Mektoub, My Love, Canto Dué. Et donc là, on attend peut-être un mieux quand même, hein, par rapport au second volet, parce que le premier, en tout cas, m'avait extrêmement bien plu.
Ouais.
Ce Mektoub, My Love, que j'avais quand même assez adoré quand même.
Ouais.
Film relativement long, mais franchement, j'ai pas vu le temps passer tellement c'était, en tout cas. Un ton juste sur l'adolescence. Donc là, c'est 6 ans après le controversé Intermezzo, et donc le réalisateur donne une vraie suite à son Canto Uno, et qui explore toujours avec la même sensualité, mais aussi l'humour, les désirs adolescents. On espère que ça sera une réussite. Autre sortie, c'est le film de Mamoru Oshii, L'œuf de l'ange.
Ah oui, c'est un dessin animé qui a l'air assez beau, effectivement. C'est d'ailleurs un dessin animé que Oshii a réalisé il y a déjà quelques années et qui n'était jamais sorti, je crois, sur les écrans. En tout cas, c'est une reprise. Voilà, un beau film à découvrir.
Alors, autre film d'animation, film d'Henrik M. Dashklebakken, c'est Panique à Noël.
Ah, j'ai un film de circonstance.
Et donc, voilà, c'est un peu dans la mouvance, voilà, c'est l'époque, hein, donc
oui.
Voilà. Ensuite, un film de David Fren, Pour l'éternité. Et l'autre film, parce qu'il y a quand même, pas loin de 17 sorties. Hein,
ah oui, quand même.
Le film de Julia Kowalski, Que ma volonté soit faite, qui sort là encore mercredi. Bon, j'ai pas plus non plus. Un film de Sven Bresser, Weedland. Donc ça sort mercredi, et donc là...
Ridland, c'est un film, je crois, néerlandais, me semble-t-il, qui est... Voilà, et qui est proposé pour représenter la Belgique aux Oscars.
Oui, il a été sélectionné à la dernière semaine de la critique à Cannes. C'est un premier long-métrage néerlandais, et le pitch... c'est l'histoire d'un fermier solitaire qui découvre le cadavre d'une jeune fille sur ses terres et qui tente de faire la lumière sur le drame. Et c'est celui aussi d'un polar nordique. Et donc, ça peut être intéressant.
Oui, ouais, esthétiquement, ça a l'air sympa. J'ai vu la bande-annonce hier, ça a l'air assez beau. Bon.
Film de Larry Young, The Shadow's Edge, donc qui débarque. Alors là aussi,
ça peut être intéressant, ça.
Je sais pas si on va l'avoir sur Limoges, mais je pense que c'est le film vraiment qui me donne envie.
Oui.
Film hongkongais, c'est pour ça peut-être.
Et oui, et qui marque le retour d'un célèbre acteur.
Et oui, Jackie Chan. Il y a aussi Tony Leung, Ka Fai et Zhang Yufeng.
Ouais, non, il paraît que le film est vraiment très très bien fait. Ouais.
Le film a fait un carton au box-office chinois.
Ouais,
au
il
passage.
A tout cassé, ouais.
Ce film d'action hongkongais vaut avant tout pour le duo de stars. Hein, et le film, quand même, pour tout vous dire, ça doit être du grand spectacle, flirte avec les 2h30.
Oui, oui, donc, mais ouais, je pense que c'est vraiment le grand retour de Jackie Chan. Et ça, c'est à n'en pas douter.
Et pour en terminer, un film de Teona Strugar Maevska, c'est Teresa, débarque mercredi. Là encore, la Belgique est toujours un petit peu à l'honneur, hein, avec le Danemark, la Suède, la Macédoine, voilà. Et donc,
et en fait, c'est un biopic, hein, sur Mère Teresa, en fait.
Oui, oui, oui.
Avec Noomi Rapace dans le rôle de Mère Teresa.
Tout à fait.
Eh bien, ma foi, voilà. un choix assez éclectique, beaucoup de films assez passionnants à partir de ce mercredi, vraiment entre les blockbusters, les films d'auteur, il y en a pour tous les goûts, et c'est vrai que là, moi je suis quand même pas mal hypé par Headland, ou encore Shadow's Edge avec Jackie Chan, et quelques deux, trois autres titres, ma foi, à découvrir sur les écrans ce mercredi. Eh bien, il est 22h35, oui, ouais. Laurent.
Oui, je crois que ça va se bousculer en salle, à partir de mercredi.
Ouais.
Peut-être qu'on se rencontrera, on le dit souvent, mais là, avec le programme qu'il y a, je pense que... Oh ben on va pas bouger des salles parce que
on va y squatter carrément, je pense. Oui. Eh bien, écoutez, en attendant de vous y retrouver, on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF, une excellente semaine à toutes et à tous. À lundi prochain, bien sûr, Laurent.
Bien sûr, à lundi. Salut, bonne toile.